Radio Libertaire 89.4, bonjour à toutes, bonjour à tous. Fondue Noire un dimanche sur deux, une émission de cinéma pendant 90 minutes avec aujourd'hui peut-être une entrée un peu plus politique entre guillemets que d'habitude, mais un gros morceau autour de deux cinéastes, Jean-Marie Straub et Daniel Hullier, autour de leur film du jour au lendemain qui vient de sortir avec en première partie Lothringen, mais aussi avec une carte blanche dans les studios Action, Grand Action, et aussi un petit morceau aussi à la Cinémathèque. Alors à ma droite, Jean-Marie, bonjour Jean-Marie. Il faut vous approcher, parler dans le micro, sinon on ne vous entend pas.
Bonjour.
Voilà. Il y a Daniel
bonsoir.
Aussi.
Bonsoir.
Voilà, et puis Daniel à ma gauche. Pour nous accompagner.
À donc, Rome, ça sera déjà bonsoir après 3 heures.
Oui, pardon, bonsoir. Il y a Laura aussi qui vient nous donner un petit bonsoir. Aperçu de ses connaissances straubiennes. Et puis à la technique pour nous accompagner pendant 7h30, Jacques.
Bonjour Céline.
Alors, on commence toujours par des rappels pratiquement les mêmes depuis pratiquement 15 ans, c'est-à-dire le numéro de téléphone du studio, le 01 42 62 90 51. Bien sûr, vous appelez pendant les pauses musicales, ce sera plus confortable pour tout le monde. On rappelle qu'au 145 rue Amelot, c'est la librairie Publico, c'est le siège social donc de Radio Libertaire. On peut acheter des livres, des t-shirts, des cartes d'auditeur qui coûtent 100 francs, des t-shirts comme chez Godard. Non, le plus important, c'est quand même la carte d'auditeur qui coûte 100 francs et qui permet donc à Radio Libertaire de vivre sans publicité et dans des moyens un peu restreints. Soit,
t-shirt, mais... c'est un peu de la pub.
C'est vrai. Non, mais c'est des t-shirts militants, entre guillemets, encore des guillemets. Alors, pour Le Monde Libertaire, c'est le mercredi ou alors le jeudi en kiosque. Tout de suite, pour Le Monde Libertaire, bien sûr, on a deux, trois petites informations. Alors, la première, c'est une bonne nouvelle. C'est, bien sûr, il y avait un procès entre Madame Boutin et puis la CNT, et Madame Boutin était déboutée.
Boutin
débouté, c'est bien. Alors, l'autre procès, parce qu'il y a des procès qui honorent et des attaques qui honorent, c'est Le Monde Libertaire qui est attaqué par le parti de Jean-Marie Le Pen pour un dessin qui est paru il y a quelques mois. Donc, ça se passe demain. À 13h30, donc au palais de justice, donc sur l'île de la Cité, c'est la 17e chambre correctionnelle.
Et
17e. 17e, oui.
Oh là là, c'est mauvais. Ouais, pour les Italiens, ce serait pas
mauvais. Ça sent pas très bon.
Il y a un caméraman italien qui a toujours refusé de tourner le clap 17. Il fallait mettre 16B ou 15.
Mais là, à mon avis, ils ont mis 17e.
Et en Allemagne, quand pour Chronique, ils faisaient le tour de tout l'hôtel pour ne pas passer devant la chambre d'hôtel 17. Ils préféraient passer par les toits, la cave, tout. Ouais.
Alors, l'autre nouvelle qui est un peu plus, disons, un peu plus grave, c'est que tout à l'heure, donc avant de venir au studio, j'ai eu un coup de fil de pas mal de gens de la Fédération anarchiste qui m'ont appris quelque chose qui est de l'ordre des temps sombres, comme dirait Louis Seguin. C'est-à-dire que la librairie Plume Noire, qui est l'alter ego en librairie à Lyon de Publico, la librairie Plume Noire n'est plus. Simplement, cette nuit, elle a été visitée, une fenêtre a été fracturée, des bidons d'essence ont été jetés, et une allumette par derrière, bien sûr. Donc la librairie Plume Noire a été incendiée cette nuit. La seule revendication, entre guillemets, je mets ça entre guillemets parce qu'on n'en sait pas plus, c'est que depuis un certain temps, autour de Plume Noire, avaient fleuri des autocollants du FNJ. FNJ, c'est Front National de la Jeunesse. Voilà, c'est tout. J'en dirai pas plus. Je pense que les copains de Lyon vont appeler dans la soirée et puis on en saura un peu plus, donc peut-être ce soir avec Guillaume tout à l'heure, donc à 20h30, mais sûrement donc dans les jours qui viennent, à partir de demain, sûrement demain matin avec Laurent, puisque Laurent fait des informations demain matin.
Et en plus, ces gens, ils savaient qu'il y en avait qui habitaient au premier étage ?
Je sais pas, en tout cas, je sais que les pompiers sont venus assez rapidement et ils ont eu la chance d'éteindre le feu avant que l'immeuble ne prenne complètement feu. Quoi. Donc voilà, c'est la chronique
c'est un
peut-être.
Grand immeuble, ouais, petit immeuble.
Je sais pas, j'en sais pas plus, Jean-Marc. Donc voilà, simplement, je donne le rendez-vous de demain, 13h30, à la 17e chambre correctionnelle, malheureusement pour le 17, et c'est donc au palais de justice. Le plan de l'émission, parce qu'il faut quand même continuer, puisqu'on est venu pour parler un petit peu de cinéma, parce qu'on va quand même parler pas mal d'autres choses à côté. Le plan de l'émission, c'est quelques brèves, un retour donc sur l'émission d'il y a 15 jours avec Ottario Celiani, et puis on attaquera ce que j'ai appelé un titre un peu élogieux, éloge de la résistance, autour donc du cinéma de Jean-Marie Straub et Daniel Hullier. Tout de suite, on écoute un tout petit morceau de l'émission d'il y a 15 jours.
Bien, comment il est disparu, il était fusillé, tout simplement. Oui, oh, oui mais
Mais c'était un des seuls, ce qui est très remarquable, un écrivain juif, génial, raffiné comme tout, qui était dans l'armée, la terrible armée de Budionny. C'était la première armée de cavalerie. Et quand les purges ont commencé en Saint-Pétersbourg, déjà Leningrad, je pense, oui, sont venus les tchéquistes, c'est-à-dire KGBistes, pour l'arrêter. Et c'était seul qui a tiré à travers la porte et ils ont dit hop, 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 ça, ils n'aimaient pas. Ils sont partis, là. Ils sont partis. Mais évidemment, après, ils l'ont attrapé dans la rue. C'est tout, mais de toute façon, normalement, si quelqu'un ripostait aux gens qui venaient l'amener en prison, eux, ils partaient, parce qu'il y avait plein d'autres à choper, oui. Celui-là qui riposte. Là. Il y avait une très jolie anecdote, là, quand un lion se promène dans la forêt, il rencontre les différentes bêtes, là. L'ours, le renard, le loup, et à chacun il dit que je te marque, tu vas venir chez moi, je te mange lundi. Celui-là il disait que je te mange mardi, tu viens chez moi, et tout le monde était très triste. Et seul le lapin il a dit que va te faire foutre. Il a dit, ah, en ce cas je te barre.
Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte contra el enemigo nos manda el deber del bien más preciado es la libertad, hay que defenderla. Alta la bandera revolucionaria que del triunfo sin cesar nos llevan por a las barricadas.
Voilà, c'était donc Ottavio Celiani pour Brigand, chapitre 7. Et on parlait donc de Ottavio Celiani avec ses côtés un peu. C'est vrai qu'il a déblatéré sur le communisme, mais c'est vrai qu'il aurait pu bien déblatérer sur Macno et sur l'anarchisme.
Ah, c'est ce qu'il m'a dit, et Jean-Marie Straub nous racontait une petite anecdote. On peut peut-être entendre la suite.
Ah oui, mais il faut que tu te rapproches, Jean-Marie, il faut que tu parles
dans le micro. La suite, c'est que... Tout d'un coup, il me regarde et il me dit, mais toi, l'exil. Alors, je dis, oui. Mais moi, j'ai très peur. J'ai très peur parce que j'ai peur d'être déraciné. Alors, je lui dis, bon, toi, c'est pas pareil. Parce qu'enfin, moi, partir de la France pour aller en Allemagne, ensuite en Italie, c'est pas tout à fait pareil que de quitter la Géorgie. Ah, il disait, toi, j'ai très peur. J'ai très peur, je vais être déraciné, je ne pourrai plus continuer à travailler, etc. Je lui ai dit, c'est très, très dangereux. Et puis, tout d'un coup, je le regarde, puis je lui dis, mais au fond, parions quelque chose. Je parie qu'au bout de...
Vous avez parié quoi, une bouteille de vodka?
Ouais, je crois que ça doit être ça.
Au bout de 10 ans de séjour parmi nous, tu deviendras le plus stalinien des staliniens. Et il se trouve que 3 ans après, même pas, il a fait savoir à qui.
C'était Martine.
Je crois que oui, c'est Martine. Et il lui a dit, dis au Straub que ça durera pas 10 ans.
Donc voilà.
Il faut, peut-être dire sur l'exil, pour présenter Jean-Marie Straub.
Oui, que, on peut commencer. Vas-y,
oui, Jean-Marie Straub, effectivement, a eu plus qu'un exil forcé, puisque aujourd'hui c'est l'éloge de la résistance, on va en parler d'ailleurs, puisqu'il a été condamné par les tribunaux militaires à 11 ans de prison. Pendant la guerre d'Algérie, pour l'appel à
la... Oh, n'exagérons rien.
Un an.
J'étais condamné par contumace à un an et j'étais 11 ans à l'extérieur. J'étais pendant 11 ans sur le livre des recherchés aux frontières, au pluriel. Voilà. Mais j'étais seulement condamné à un an de prison, ça suffisait, c'est le barème. Quelqu'un qui disparaît sans avoir répondu à l'appel, c'est un an. Ça s'appelle insoumis. Un déserteur, c'est 2 ans, c'est déjà suffisant, non pas 11 ans, c'est le tarif. Hein. Et c'était pas les tribunaux, mais le tribunal des forces armées de ma ville natale, la ville de Metz. Voilà.
Oui, c'est vrai que Metz joue un grand rôle. Hein,
c'est la ville où Massu a été gouverneur général après Giraud, etc. Et Massu, il revenait des tortures.
En Algérie. Oui, mais c'est quand même... Moi,
j'étais parti à ce
moment-là. Ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même, vous partez à un moment où les Français sont en guerre en Algérie.
C'est pour ça que je suis parti. Ouais.
Donc on reviendra sur tout ça. On va faire rapidement les brèves et on va attaquer...
Guerre, c'est beaucoup dire, parce que c'était pas une guerre. On voulait pas que ce soit une guerre. C'était ça le problème. Il y avait des brigands ou des rebelles.
Des brigands.
Qui n'avaient pas le droit au statut d'ennemi.
Des mutins.
Ce qui est très curieux, c'est qu'il y a, quelques moins de 3 semaines, j'écoute les informations de France Musique par hasard et j'entends un soldat français tué, 10 mutins abattus. Hein, c'est pas mal ça. Et 3 jours après, j'entends un soldat français égratigné ou blessé, on a abattu immédiatement le mutin.
Hein?
C'est
pas
sous,
ça
veut dire. Quoi? Oui. Oui, exactement.
Au Congo.
En Algérie, c'était des rebelles, c'est ça qui est important.
Oui, mais moi je me place...
Si on leur avait accordé le statut de guerre, c'était autre chose, ça changeait pas grand-chose, mais... D'où les histoires de torture, etc., c'était des rebelles.
On viendra tout à l'heure sur votre parcours, parce que je pense qu'on commencera toujours par une présentation de ce que vous avez fait et de votre passé. On va faire les brèves rapidement, Laura, on commence peut-être par toi.
Demi tout entier, donc on pourra revoir toute l'œuvre de Demi ou la découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, à partir du 19 février.
Donc mercredi.
Donc ce mercredi, et... dans les salles, tu sais quelles salles?
Je pense que je ne sais pas encore trop les salles. Je sais que les films vont sortir deux par deux, sur une quinzaine, avec une reprise totale.
Il y a plusieurs salles, puisque j'en ai vu un annoncé chez Gauss, au Rue des Écoles. Ouais.
Lequel?
Qu'est-ce que c'est? Bon,
je ne sais plus. Moi, je sais que...
Il y a une grande
appui. Les parapluies?
Non.
En tout cas,
non, c'est pas
les voir le film de Demi. Voilà ce qu'on peut dire auditeurs. On avait déjà consacré d'ailleurs une grande émission à Demi quand Demi avait disparu.
Ah oui, et puis moi j'en ai fait une il y a au mois de décembre autour du livre de Camille Taboulet.
Voilà, donc Demi, on aime et on recommande.
Ouais. Il y a un film, je peux dire quelque chose?
Ah oui, oui, oui.
Il y a un film de Demi que j'aime bien, c'est pas le seul, mais c'est l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. C'est assez près.
C'est bon.
Et Monsieur Mastroianni est mort, on en a guère reparlé de ce film-là. Hein. Et on voyait des affiches, même des photos, même dans les cahiers de tous les autres films avec Mastroianni, mais pas celui-là, pas celui de Demi. Or, c'est un des plus beaux rôles de Mastroianni, mais il se trouve, il faudrait quand même avoir le courage de le rappeler, que ce cher Mastroianni, qu'on a tellement célébré maintenant, eh ben, il a fait mutiler le film en Italie quand il est sorti. Premièrement, il l'a fait doubler, ce qui n'a plus grand sens, parce que lui parlait avec son accent à Paris. Il incarnait un petit bourgeois français, ou né en France, etc. Bon, et ce qui est beau dans ce film, c'est que c'est très juste sur la petite bourgeoisie. Hein,
bon, c'est croqué. Hein.
Ouais, c'est pas du tout de la caricature comme Fassbinder ou d'autres films. Mmh. Et non seulement il a doublé, il l'a mutilé en doublant, mais il a fait enlever des plans où il jugeait ridicule. Parce qu'évidemment, il était enceinte et des choses comme ça. Et il y a des choses qui ne lui avaient pas plu du tout et que Tommy lui a imposé comme ça avec patience et gentillesse et qu'il a tourné. Mmh. Et qui sont parmi les meilleurs. Et c'est justement ça qu'il s'est arrangé. Il s'est employé à faire disparaître dans la version. Que ces pauvres Italiens.
Il a aussi changé le texte d'ailleurs.
En doublant, ils ont changé des trucs dans le texte. Hein, c'est...
Bon, bah, il y aura peut-être une histoire parallèle du film qui partent à l'étranger.
En plus, par hasard, ce film-là, c'est notre ingénieur du son, Louis Rocher, qui l'a fait avec lui.
Ah, d'accord.
Et c'est un très beau travail au niveau du son en direct.
Oui.
Alors, l'autre rendez-vous, c'est un rendez-vous, je continue sur les brèves, c'est un rendez-vous hebdomadaire à deux pas de la Libre Républico, c'est le cinéma Le République, qui accueille de temps en temps la Cinémathèque, enfin pas de temps en temps, tous les soirs de la semaine, sauf le lundi et le mardi. Donc là, c'est dans le cadre de l'Acide, je pense que c'est Françoise Etchegaray qui présentera un film de Romère qui est très d'actualité, qui s'appelle L'Arbre, le Maire et la Médiathèque. Voilà, donc c'est demain donc à 20h30, juste après la manif de 13h30 au Palais de Justice. C'est pas une manif, c'est un rendez-vous. Voilà. Autre brève, la conspiration, les conspirations, donc une programmation Jean-François Roger à la Cinémathèque française, Cinéma République, ça se poursuit jusqu'au 27 février. Et le 28, on aura donc un week-end autour de vos films. Et pourquoi sont pas dans la carte blanche ces films-là? Je les ai là devant moi.
Parce que c'est des films tournés en 16 mm et qu'aux grandes actions, ils n'ont pas de projection 16 et qu'il aurait fallu bricoler une projection 16 et ça vaut jamais rien.
Aussi alors, bien cause, pas seulement nous, mais même cause a dit vaut mieux pas.
D'accord, donc c'est repris la suite
là,
de nos
Roger films. A accepté d'héberger ces. Combien il y en a ?
Trois, je crois.
Trois films de Ford.
Ouais, deux Ford. C'est pour ça qu'il n'y a pas les Ford
chez les actions.
Les films de nous, il y en a deux longs et puis un court qui fait un quart d'heure.
On reviendra tout à l'heure en fin d'émission donc sur les programmations et puis les titres.
Trois longs.
Donc voilà, ça je le ferai là. Et puis donc dans l'autre cinémathèque qui est à la Cinémathèque Palais de Chaillot, c'est chansons, larmes et crises. C'est autour donc presque des sombres années, des temps sombres, puisqu'on a c'est une programmation autour des années 30 au cinéma. Le programme est dans tous les petits programmes que vous avez. Là, on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude dans l'émission, mais il s'est passé quelque chose de relativement important et médiatique, entre guillemets aussi encore. Cette semaine, vous avez tous entendu parler donc, de la prise de position de 66 cinéastes qui sont devenus presque une centaine maintenant, autour donc des lois Debré-Toubon. On peut dire autour des lois Toubon, Debré, Papon, enfin presque. Mm-hmm. Donc voilà, on va vous passer un tout petit extrait, je pense que c'est 3 minutes, Laura.
Oui, à peu près. On va entendre Tony Marshall et ensuite Pascal Ferrand, puis on reviendra sur ce qui s'est passé ces jours-ci.
Ce qui va se passer
dans l'avenir.
Voilà.
Le fait qu'on demande le retrait de cette loi qui est inapplicable, tout simplement inapplicable, donc inapplicable. Moi, j'ai signé ce texte parce que, entre mille autres choses, mais parce que je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur. Moi, ce que m'a appris le mouvement des sans-papiers de Saint-Bernard, c'est que pour avoir moins peur, il faut à un moment reprendre l'initiative de la pensée et du combat. On avait déjà à peu près peur de tout, quoi, du chômage, de la misère, du sida, de ne pas trouver d'amoureux, d'avoir une mauvaise vie, enfin la peur d'un million de trucs. Mais là, maintenant, aujourd'hui, par les lois Pasqua et les lois Debré, le gouvernement de ce pays veut vraiment qu'on ait peur des étrangers. Il veut qu'on ait peur de tous les étrangers, c'est-à-dire aussi bien ceux qui sont en situation régulière que ceux qui sont en situation irrégulière. Parce que moi, il y a une chose que ma maman ne m'a pas apprise quand j'étais petite, c'est à demander les papiers des gens que j'invite chez moi. Donc je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur des étrangers et très vite peur de soi-même, puisqu'on est toujours forcément l'étranger de quelqu'un d'autre. C'est une notion à un moment donné complètement absurde.
Pascal Ferrand, donc c'était la conférence de presse des cinéastes qui appelle effectivement à ce qu'il y ait donc un mouvement de désobéissance civile, notamment sur l'article dans le projet de loi Debré concernant les fichiers d'hébergement. Alors,
ils vont dire qu'il manque quand même un volet important à leur appel.
Alors,
Moi, parce que je... situe leur appel autour des années 90, en oubliant les années 80, et puis la mise en place justement de...
Alors moi, je différencierais dans la mesure où il y avait une quinzaine de cinéastes qui étaient là, ils n'ont pas tous forcément les mêmes positions. Je crois qu'il n'y a pas d'homogénéité. Il y a quand même quelque chose d'un peu collectif qui est apparu. Et ça, c'est la première fois depuis très longtemps qu'il y a une prise de position collective de cinéastes par rapport à un événement politique. Cela dit, effectivement, il y en a qui respectent le travail du législateur et qui le disent clairement, en disant c'est cet article-là concernant les fichiers d'hébergement qui gêne. Et puis d'autres qui ne se situent pas du tout dans ce contexte-là. Je citerai par exemple Guédiguian, qui effectivement dit toutes les mesures prises sont des concessions sans arrêt faites vis-à-vis du Front National. Bon, ça c'est une chose, c'est-à-dire que plus la politique avance, plus on fait des concessions au Front National. Et d'autres qui disaient, grosso modo, que les choses avaient été mises en place bien avant. C'est-à-dire que c'est pas que c'est la crise, que c'est les années 80 aussi, et que c'est une situation de fait qui s'aggrave vis-à-vis des étrangers, et qu'aujourd'hui il y a un boulevard qui a été ouvert. Donc il n'y a pas homogénéité. Alors, par contre, ce qui paraît de plus en plus dans la presse, effectivement, dans les médias, c'est plutôt une focalisation sur l'article concernant les fichiers d'hébergement, et pas sur l'abrogation même du projet de loi. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on commence par Tony Marshall, qui demandait, elle, clairement, l'abrogation du projet de loi. Parce qu'il est évident que dans le projet de loi de Bré, rien n'est acceptable, du point de vue c'est même pas du droit des étrangers. Bon, en plus, il y a une chose, c'est que personne ne s'est insurgé quand il y a eu la rafle des flics sur le foyer du retrait, où on a eu 60 arrestations en une matinée, puisque par exemple le rapport Q concernant les foyers de travailleurs migrants, là il ne s'agit pas de fichiers d'hébergement français, mais il y a bien un projet par exemple de faire des rafles dans les foyers de travailleurs migrants. Hein. Il y a eu 60 arrestations, 60 expulsions le jour même. Personne n'a protesté. Des charters, il y en a tous les jours. Les centres de rétention existaient et fonctionnaient à plein, sous la gauche. Et il faut quand même rappeler que les fichiers d'hébergement, du point de vue de l'arrivée des étrangers, ont été mis en place en 82.
Ah oui, c'est pour ça qu'il manque un volet.
Voilà. Alors, dans les cinéastes, il y avait des positions un peu... Tu vois, tu sentais une non-homogénéité. Par contre, ce qui est vrai, c'est que là, maintenant, les choses sont un peu boule de neige et tout le monde a l'air de se mettre d'accord sur un truc, c'est retrait de l'article concernant les fichiers d'hébergement, ce qui, en fin de compte, concerne les Français, avant tout.
Alors, plus que ça, si on est un peu méchant, bon, moi, ce truc sur la désobéissance, ça me va bien, mais en plus, c'est nostalgique sur le manifeste des 120 au moment de la guerre d'Algérie.
Comment ?
121. 121, c'est de là que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça.
Oui, mais c'est toujours comme ça. Les gens bougent quand ils sont concernés eux-mêmes. Le métro de Charonne, c'est ça qui a provoqué l'explosion. C'est pas les arrestations d'Algériens et les tortures d'Algériens avant.
3-4
c'est quand
octobre 61.
Ouais, c'est quand les Français de souche ont été
visés. Oui, bien sûr.
C'est pas octobre 101 qui a fait
c'est
comme ça.
C'est sûr que c'est à nous maintenant qui...
Mais ça ouvre le champ.
On peut dire même, si on veut être encore plus vache à leur égard, c'est un peu la petite bourgeoisie qui de nouveau se regarde le nombril.
Mais là,
évidemment, ils veulent pas.
Jean-Marie, tu rejoins Raoul dans ces cas-là.
Ils veulent pas dénoncer, ça parle en leur faveur.
C'est un minimum de dignité bourgeoise, c'est de pas se transformer en dénonciateur.
C'est quand même une tradition française.
Ils veulent pas être des officiers de police.
Faut le dire, c'est une tradition française. Il y a beaucoup de pays, pas seulement.
Ça n'a pas empêché les dénonciations sous Vichy, au combien. Hein.
Là, il reste quelque chose dans la classe intellectuelle française, une horreur de la dénonciation. Et ça, mais alors même en Italie, il faut quand même rappeler qu'il y a eu une apologie de la dénonciation au moment de l'affaire des Brigades Rouges. Ils en ont fait une vertu de la dénonciation.
Et que les affiches avec photos sur les gens qu'on recherche, etc., qui nous ont sauté à la figure quand on est arrivé en Allemagne et qui est une tradition américaine.
Qui viennent des westerns, viennent des westerns.
Ici, ça n'existe pas, enfin, pas encore.
Pas encore, ils ont essayé au moment de Calcal, etc.
C'est terrible quand un État fait de la dénonciation une vertu, c'est ce qui est arrivé en Italie. Hein. Ça va loin. Et là, personne n'a protesté. Il y en a un seul qui a protesté, c'est un horrible vieux mafioso qui était dans une prison à New York depuis combien d'années?
20 ans.
Et c'est le seul qui est dit, parce qu'ensuite ça a été appliqué à la mafia, hein. On avait expérimenté ça sur les à l'époque des Brigades Rouges, et la même loi a été élargie et appliquée à la mafia. Et tout le monde, et tout le monde, même Andreotti et avant tout Craxi, allait retrouver le juge en lui disant: attendez, je vais encore vous raconter une bonne histoire sur mon petit copain, même du parti, hein. Ça va loin, ça. Et ce vieux mafioso, au contraire, il a dit: moi, n'attendez pas. Et tous les mafiosi ont tous dénoncé, à tort et à raison, en mentant. Parce que la loi prévoyait une indulgence en leur faveur, même dans le pire des cas, plus ils avaient dénoncé, mieux on les traitait ensuite avec des pincettes. Et celui-là, il a dit: ne comptez pas sur moi, moi je purge ma peine depuis plus de 10 ans, et je ne dénoncerai personne de la mafia. C'était fini. Bon, ben, c'est une forme de dignité.
Alors moi, je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une manifestation quand même ce samedi, donc on va y aller. Je pense qu'en plus, les auditeurs de Liberté, en général, ne sont pas des déserteurs des manifestations. Mais je pense que ce qui est important, c'est ce que disait Toni Marshall, c'est elle était pour l'abrogation des lois. En préparation. Des lois scélérates, voilà. Moi, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur un article, celui des fichiers d'hébergement, qui effectivement touche les Français. Il faut demander l'abrogation des lois Pasqua et des lois Debré en préparation. Mmh, voilà, point, c'est tout. Mmh. Et c'est ça la bataille.
Et puis, on... Voilà, c'est qu'un début. Alors, rapidement, j'ai oublié dans les brèves, et puis on va donc faire l'éloge de la résistance avec Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Mercredi, donc, dans Fondue Express, je recevrai, normalement, si tout va bien, Abderrahmane Bourguemou pour La Colline Oubliée, qui est, paraît-il, le premier film en langue berbère.
Ah, c'est...
Donc, c'est vrai que c'est en langue berbère.
Toi, t'es bien
d'accord. Et donc, il viendra donc, pendant à peu près une heure donc, de nous parler de son film, qui, avec des boires et des déboires, surtout beaucoup de déboires, en particulier un montage fait par téléphone. Ça doit être assez donc, mais ça se ressent malheureusement donc à l'image. Voilà, donc
quel type de sortie là?
Je sais pas trop comment ça sort. Je pense qu'il va y avoir quelques salles, mais pas un gros paquet, peut-être 5-6 quoi. Et puis normalement dans 15 jours, et c'est le CD que je voulais passer, mais visiblement il y a un petit problème au démarrage, on recevra donc Nicolas Philibert pour La Moindre des Choses, un film qu'il a fait donc l'été dernier dans l'hôpital psychiatrique de La Borde en Indre-et-Loire, et donc autour d'une pièce de théâtre qui s'appelle Opérette de Gombrowicz. Donc on recevra Nicolas Philibert dans 15 jours.
Qui a eu son père comme professeur de philo au lycée.
Le père de Nicolas Philibert. Ouais. Et ce film, vous l'avez vu?
Ouais, ça m'intéresse.
Ouais, c'est plus intéressant. Ouais. Un animal des animaux, c'est plutôt bien.
Et quand je l'ai rencontré là, il y a seulement un an, je ne l'avais jamais vu. Mmh. Il m'a dit que son père lui parlait de moi. Son père était très drôle parce qu'il se refusait à enseigner. Il se refusait à enseigner, alors il arrivait, il mettait ses pieds sur la table et il commençait à lire. Et ce qu'il aimait le mieux, c'était les essais de Montaigne.
Voilà. C'était la philosophie pratique.
Voilà.
Donc c'était pas le cours, c'était ce qu'il aimait. Donc
voilà.
La vraie philosophie.
Voilà,
donc on va attaquer peut-être, ça marche Jacques ou pas? Tu te fais un petit signe? Bon, bah, on laisse tomber, tant pis. On va attaquer tout de suite donc l'éloge de la résistance. Ça commence vos cinémas, hein, parce que je pense qu'on peut, on vous associe. Hein. On dit toujours les Straub, mais en fait c'est Straubuyer. C'est plutôt.
Les Straub, c'est très bien, d'ailleurs c'est plus facile à prononcer. c'est plus court.
Daniel Huillet. D'autant qu'il faut dire Huillet.
Huillet.
Ah, c'est un nom de Blois et là-bas.
Huillet comme l'huile.
Huillet. Bon, ça sera les Straub, ça sera plus facile.
Oui, voilà. D'accord. Donc, prouve que les noms bien français ne sont pas toujours les plus faciles à prononcer.
Non, c'est vrai, c'est sûr.
Donc, on va dire.
C'est monsieur Méniard.
Là, il y a un problème parce que Straub, c'est un vieux substantif de racine saxonne, flamande, enfin du nord du domaine linguistique germanique. Et le substantif a disparu. Il reste un verbe. Le verbe, c'est sich sträuben, se hérisser, c'est ce que font les chats.
Ah, bah ça
et le substantif était beaucoup plus fort, c'est pour ça qu'il a été chassé de la langue.
Et Straub, ça veut dire quoi?
Straub, ça voulait dire rebelle, tout court.
Ah, bah voilà. Hein? On comprend tout, en fait.
Et il n'y a pas de Straub dans le sud de l'Allemagne, en Bavière. Pas un seul dans le Bottin. Et là, il y a des Strauss, ça veut dire bouquet. Hein? Et dans le nord, à Amsterdam, si on prend le Bottin d'Amsterdam, il y a je ne sais pas combien de pages de Straub.
Ah, ben c'est pour ça que ça résiste bien, les Pays-Bas. Ça doit être pour ça. Et il y a des Straub aussi en Italie, à Rome, dans le Bottin.
Oui, il y en a trois.
Il y en a trois. Il y a un John, un Johan et
un Jean-Marie.
Jean-Marie. Mais il y en a un qui a disparu depuis un an.
Alors, c'est vrai qu'on avait commencé tout à l'heure donc, par une présentation, mais on peut continuer. C'est vrai qu'après la période, donc c'est 58, où vous partez donc, en exil.
Voilà, c'est 11 ans d'exil. 11 ans d'interdiction du territoire.
Du territoire, oui. Et donc, vous commencez quand même à faire des films en 63.
Même
62,
c'est le premier court-métrage, le film, un court-métrage.
Et votre première...
Non seulement j'ai été... condamné à un an de tôle par contumace, mais en plus frappé de ce qu'ils appellent frappé d'indignité nationale. Et puis, en plus, on m'a pas renouvelé ma carte d'électeur depuis. On m'a dit qu'il faut aller la demander, mais j'ai dit un citoyen va pas mendier une carte d'électeur, on doit lui envoyer. Non, il faudrait que j'aille la mendier.
Donc vous ne votez plus?
Ah ben...
non, vous êtes triste
Parfois, je suis plutôt content.
Entre Anglade et Front National.
Il y a une histoire très drôle, c'est que ça allait loin très au début, parce que j'étais à peine parti depuis 6 mois, j'avais besoin d'un extrait de naissance. J'ai écrit à la mairie de Metz, en mettant post-restante Munich ou je ne sais pas quoi, et j'ai demandé à l'état civil d'envoyer l'extrait de naissance à un ami qui travaillait à la BNP, boulevard des Italiens, je ne sais pas quoi, et qui se levait tous les matins, très tôt, pour aller à son boulot. Et un jour, il était en train de se raser, on sonne. Deux gendarmes étaient devant sa porte. Et ils lui disent, alors, ouvrez la porte, on veut savoir où est ce strop, là, où est-ce que vous le cachez. Parce que l'extrait de naissance, il l'a trouvé le soir dans sa boîte, il était en route, et quand il l'a trouvé dans sa boîte le soir en rentrant de sa banque, eh bien, l'enveloppe avait été cisaillée très soigneusement avec une lame de rasoir tout autour, et ils avaient recollé ça comme des imbéciles avec du scotch. Donc, ils avaient regardé ce que c'était, ils avaient l'adresse à qui j'avais demandé d'envoyer ça.
Ça, c'est encore une fois un dénonciateur.
C'est un type de l'état civil qui a fait le flic, c'est pas compliqué.
Peut-être que ce soit pas une tradition française.
Ah, mais ça existe, je pense. C'est pas une tradition, mais il y a des gens qui sont hors tradition.
Non, aujourd'hui, ce qui est très grave, c'est que l'administration, sur les renouvellements de cartes de séjour des étrangers, par exemple sur en Seine-Saint-Denis, bon, moi je suis quand même assez au courant de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, puisque sur l'affaire Nouvelle-France et tout ça, on a eu des refus constamment, mais venant parfois de guichetiers. C'est-à-dire que, par exemple, le préfet de Seine-Saint-Denis du Port a fait une circulaire interne, puisque maintenant, c'est les préfets qui peuvent décider sur les cartes de séjour des étrangers, sur le séjour des étrangers. L'État, en fait, se déresponsabilise et c'est les préfets qui ont un peu tout pouvoir.
Ça, c'est grave.
Et ça, c'est très grave. Ouais. Et donc, dans les préfectures, aujourd'hui, il y a des circulaires avec des ordres émanant des préfets qui disent à leurs guichetiers, à leurs guichetières, etc. Effectivement, il y a un encouragement à la délation.
Bon, après ce petit intermède, mais je pense que c'est vrai que parfois ça déborde un peu plus, le cinéma est quelque chose de très presque futile, mais pas dans le cas des Straub.
Alors, enfin, là, dans ce cas-là, ce qui est grave, c'est que c'est un individu qui n'avait pas une circulaire
des préfets.
Ou simplement de ses supérieurs.
C'est
à l'état civil, qui n'a rien à faire théoriquement avec la police, qui tout d'un coup fait du zèle. Fait du zèle, c'est terrible.
Décide.
Il décide, ouais.
Non, c'est laissé au libre arbitre de gens qui sont des simples bureaucrates et qui, ça n'enlèvera rien à leur salaire, ça leur apportera rien. Par contre, on les encourage effectivement à être zélés et y compris délateurs. Et ça devient très
grave. Et après, on se plaint des progrès du Front National. Thank you.